au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices. C'est la première fois que j'entends ce nouvel indicatif. Je trouve que c'est entraînant. Alors, on va essayer de vous entraîner vers le week-end, puisque quand vous entendez ma voix, Francine Forget au micro, vous savez que nous sommes en train, tranquillement, d'entamer notre week-end. Au quotidien 5e édition, vendredi 9 septembre, sans Yvan Deslauriers. Toutefois, ne partez pas de fausses rumeurs. Il n'est pas en vacances. Il ne se repose pas. Il travaille, je dirais même, très fort pour nous. Il pourra peut-être vous en parler la semaine prochaine, s'il a le goût. Mais évidemment, je suis avec Mathieu Tessier, que je retrouve avec beaucoup de bonheur, hein, qui a eu des vacances.
Oui.
Qui est encore en forme après une semaine de retour.
Oui, oui, tout à fait. Les boutons sont à la même place que quand je parte en vacances. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés à me réadapter.
Alors, tant mieux. Eh bien, revenu, bien, en tout cas, comme vous le voulez, c'est vendredi. Ouh, ça va être difficile, je sens ça. J'ai probablement beaucoup d'émotions à la suite de la grande nouvelle. Oui. Malgré cette grande nouvelle, on vous a quand même concocté une émission qui ne portera pas uniquement là-dessus. Serge Hamelin va venir nous voir, comme à l'habitude, notre chroniqueur, qui va nous parler de nourriture pour chats. Marcel Dugas, lui, qui va parler de capitalisme et de communisme, mais dans des épreuves où il y a de la compétition, là, et ça dépasse la compétition, ça devient vraiment quelque chose de politique. Il y a aussi, évidemment, notre amie de l'Estrie, n'est-ce pas, Monique Kirouac, et je m'entretiendrai avec Carole Froment, qui est du CIVA. La dernière fois, on avait parlé de sa programmation d'été, mais maintenant, elle a entamé l'automne. Évidemment qu'aujourd'hui, on ne peut passer sous silence cette grande nouvelle que nous avons tous apprise hier, c'est-à-dire le décès de la reine Élisabeth. Je ne sais pas comment vous avez réagi, vous, Mathieu, à cette annonce.
Sans être royaliste, je trouve que c'est un gros morceau parce que... Voilà, j'ai 45 ans, elle a été là toute ma vie, elle est sur mes billets de banque. Mais ben voilà, c'est la force, c'est la vie qui fait. Elle avait quand même 96 ans. Donc.
Oui, mais on l'a vu en début de semaine. Elle n'avait pas l'air en grande forme, mm-hmm. mais quand même, elle était là. Mm-hmm. Elle a fait les photos qu'elle devait faire avec la nouvelle première ministre. Elle a rencontré M. Johnson quand il a remis sa démission. Et tout à coup, oups, c'est fini. Mais comme vous le dites si bien, à cet âge-là, des fois, peut-être, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine usure. Moi, pour ma part, Mathieu, Élisabeth, c'est drôle parce qu'on a vécu toute une période de relations très particulières avec elle. Mais pour des femmes de ma génération, souvent, on portait ce nom dans notre nom. Moi, sur mon baptême, le nom d'Élisabeth est là. Pourquoi? Parce que ma grand-mère s'appelait Élisabeth, parce que c'était ma marraine et parce que aussi c'était important pour elle que Élisabeth soit aussi sur mon baptistère. C'était quand même un personnage féminin, fort, surtout pour des femmes de cette époque qui n'avaient pas beaucoup de modèles. C'est sûr que si on veut peut-être se remémorer des événements importants et tout ça, on pourra vous citer peut-être quelques documentaires que vous pourrez revoir. Il y a aussi, j'en parle d'emblée, la série The Crown sur Netflix. La 5e saison va commencer sous peu, là, en novembre 2022. Elle a été lancée il y a 6 ans, cette série-là. Et cette 5e saison va partir sur une période de 1990 à 2000 où, évidemment, on va aborder la relation entre Charles et Lady Di et la mort de Lady Di et les conséquences de cette mort. Alors, c'est assez particulier que ça nous arrive comme ça au moment où, justement, la reine tire sa révérence. 70 ans de règne, en fait, un peu plus, hein, elle était dans sa 71e année, c'est beaucoup, c'est beaucoup.
C'est parmi les plus longs règnes, je pense.
Dans le Devoir, je vais en parler brièvement tantôt, Jean-François Nadeau dit que Louis XIV la dépasse, mais de peu. 72 ans, je crois. Alors, c'est quand même mémorable. Elle n'a pas besoin de détenir la première place, je vous dirais. Moi, juste le chiffre de 70 ans, c'est quand même important. Et son 70 ans, c'est drôle parce que cette semaine, quand je regardais je lisais des choses et il y avait un fait saillant qui m'avait marqué. C'était 70 ans de la télévision au Canada. 70 ans de Radio-Canada, en fait. Radio-Canada a sur son site web un article qui parle justement de sa naissance et qu'il met à jour depuis 2017. Donc, il l'a mis à jour le 2 septembre dernier parce que le 6 septembre 1952, c'était le jour d'inauguration pour la télévision canadienne. Et j'en parle parce que je pensais à cette époque où on a prédit la mort de la radio.
Oui, mais je pense qu'on avait aussi prévu les voitures volantes, donc certaines personnes se sont trompées en chemin.
mais dans le domaine des médias, c'est assez intéressant parce que la télévision arrive, on dit « Ah! »
Oui, c'est la fin.
C'est la fin, ouais, pour la radio. C'est la fin. Le cinéma qui devient de plus en plus important avec toutes les séries publiées, se représenter sur des sites comme Netflix et compagnie, et on dit « Ce sera la mort de la télévision traditionnelle ». Ben, elle est encore là. Le cinéma qui est arrivé, puis on dit, ben là, ça va vraiment faire mourir la télévision, probablement. Et là, on dit que le cinéma pourrait aussi rendre l'âme parce qu'il y a trop de choses qui s'offrent à nous qu'on peut consommer.
Il y a beaucoup de plateformes.
À partir de plateformes chez nous. Mais tout ça fait qu'à un moment donné, on dirait que c'est comme un stimulant. Pour que ceux qui se sentent menacés, on ne se laissera pas avoir. Et ça donne des beaux moments. Alors, je rappelle quand même quelques moments parce que je trouve ça important. Donc, il y a 70 ans, Radio-Canada entre en onde. Évidemment, on est dans le noir et blanc. Et le premier animateur de télévision, le 6 septembre 1952, c'est quelqu'un qu'on a connu, donc qui lui aussi a fait une longue carrière, Henri Bergeron. Alors, Henri Bergeron, c'est le premier. Le documentaire, en fait, Les coulisses de la télévision, il s'inscrit dans cette journée d'inauguration. Donc, on avait fait œuvre pédagogique pour expliquer, d'une certaine manière, comment, finalement, on bâtissait ces émissions, pour présenter aussi dans cette émission tous les corps de métier qui étaient impliqués. Parce que on le sait quand on fait des émissions, des fois ça a l'air simple. Quand on voit des productions à la télévision, où c'est quand même un média encore pas mal plus lourd que la radio qui a développé une très, très grande souplesse, on se rend compte finalement que il y a beaucoup de gens associés à ça. Et c'est comme inévitable que, qu'on puisse faire autrement. En 1957, il y a 120 émissions de télévision qui sont diffusées en direct chaque semaine. Montréal, c'est le premier centre de production française au monde.
Ah, c'est beaucoup.
À cette époque-là. Évidemment, ça a changé, hein? Et le 28 octobre 1956, une émission marquante dont on parle encore aujourd'hui, dont on a parlé beaucoup récemment, même ici, Point de mire. Avec un certain René Lévesque, émission entre en onde. Une émission en couleur de Radio-Canada, le 1er septembre 1966, même si à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un appareil approprié pour écouter la couleur. Alors, pour voir la couleur, c'est à peine, je dirais, 50 % des gens. Alors, c'est assez fascinant, cet article. J'arrête de faire cette chronologie, mais si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Radio-Canada et vous allez voir que vous pouvez prendre connaissance de cette merveilleuse histoire, celle de Radio-Canada, évidemment, comme Radio-Canada a été la première chaîne en onde au Canada, bien, c'est évidemment l'histoire aussi de l'entrée en onde de la télévision canadienne qui n'étaient pas parmi les premières. Il y avait des gens qui, déjà ailleurs, en Europe, aux États-Unis, tout ça, étaient en onde. Alors voilà, c'est parti pour Au quotidien 5e édition.
La route sera grande, lumineuse et fantastique. À chaque seconde, tout commence. En naissant toujours on existe. Bien sûr il y aura les murailles qui se dessinent à ton chemin. Avec les murs et les failles, on s'en fera des maisons. Je t'aime d'un amour qui n'existe pas encore. Il me faut l'inventer toujours. J'ai pas les mots, le silence est pas assez fort pour te dire. Bien sûr, il y aura l'élégance avec laquelle tu aimeras. Orageusement, sans tempérance, parce que demain t'attendra pas. Pour toi, je ne veux que le sublime, la funambulesque beauté. Pour toi, je n'espère que la cime et les ailes pour y aspirer. Et bienheureux celui qui ose, il vivra jamais à petit feu. Et c'est la part qui en kilose, vide et tellement.
Un choix tout en douceur, ma chère Francine, c'était Ingrid Saint-Pierre, La Lumineuse. Bon choix.
C'est très beau, cette chanson. Déjà, moi, je me sens sereine, calme. Et vous, Mathieu?
Oh oui, tout à fait. Ça m'aide dans la mise en onde en direct.
Parfait. Ce matin, dans tous les journaux, évidemment, c'est la même manchette. Alors, on va faire le tour, mais aussi, je me suis consacrée à certains, témoignages ou encore commentaires par rapport à la relation avec cette femme qui était Élisabeth II. Le Devoir, Élisabeth II, 1926-2022, la reine de toutes les révolutions. Stéphane Baillargeon signe l'article. Guerre froide, Irlande, Brexit, en près d'un siècle de vie. Elle a été de tous les bouleversements, pour le meilleur et pour le pire. C'est son fils aîné, Charles de Galles. Il faut faire attention, hein, ce matin, en lisant, à un moment donné, j'ai dit De Gaulle. Alors, Charles de Galles, qui va devenir, ben, en fait, qui est devenu le nouveau roi à 73 ans, même s'il n'a pas été intronisé comme tel. Évidemment, il était particulièrement ému et il dit que c'est un moment de grande tristesse pour lui et pour tous les membres de sa famille dans un communiqué qui a été diffusé hier. Indeed, on dit dans l'article du Devoir, la nouvelle que la souveraine se portait mal a été relayée jeudi matin et ça a entraîné un flot de condoléances des dirigeants du monde. J'ai regardé aussi à l'intérieur du Devoir et il y a un très bel article de Jean-François Nadeau qui explique que notre relation, la reine du Canada vue du Québec. Il dit « L'étonnante longévité d'Élisabeth II ne l'aura pas empêché, du moins au Québec, d'être une souveraine fort peu populaire. Malheureusement, ces décès nous amènent à parler des conséquences et justement des relations qu'on a pu avoir avec ces dirigeants. Il dit d'ailleurs, ce dont on a parlé en début d'émission, Mathieu, qu'elle ne détient pas pour autant le record de longévité, même si ça fait 70 ans qu'elle régnait. C'est Louis XIV qui, effectivement, 72 ans. Son règne, sous son règne, il y a 17 premiers ministres du Québec qui se sont succédés. C'est quand même important. Et elle n'aura pas été populaire malgré tout ce qu'elle a fait, puisque ça a été quand même un personnage féminin important. En 2021, un sondage de Léger montrait que seulement 12% des Québécois soutenaient la monarchie en 2021. Alors, quand on parle de popularité et tout ça, mais on parle davantage de l'institution que de la femme comme telle. C'est un désamour profond envers la monarchie, en fait, qui se maintient à de très hauts niveaux depuis les années 60, écrit Jean-François Nadeau dans Le Devoir. Dans le journal de Montréal, on titre « La reine est morte, vive le roi Charles III ». Dans le journal de Montréal, on fait ressortir le fait qu'il peut avoir des conséquences à cette nouvelle, des conséquences importantes, un questionnement qui pourrait être important quant à notre attachement au Canada. Ils étaient attachés à Élisabeth II, dit-on, tous ces Canadiens. Elle a visité le pays 22 fois durant son règne, mais Hugo Duchesne cite quelques personnes, dont Benoît Pelletier, qui est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et ex-politicien, qui dit que plus de Canadiens seraient favorables aujourd'hui à quitter le Commonwealth au moment de son décès. Alors bref, l'attachement ici dont on parle était davantage à la reine que, évidemment, comme on l'a mentionné, au Commonwealth comme tel. C'est un débat auquel le Canada n'échappera pas, poursuit l'avocat constitutionnaliste. Dans le journal de Montréal aussi, j'ai retenu le commentaire de deux columnistes. José Legault qui dit que c'est un modèle unique de pouvoir bienveillant. À 96 ans, elle avait une santé fragile, surtout depuis la mort de son mari adoré. Mais à sa dernière apparition aux côtés de sa nouvelle première ministre britannique, la reine était magnifiquement souriante. Et elle dit « On n'a pas besoin d'être monarchiste pour saluer et admirer son courage, son esprit aiguisé, sa droiture et sa résilience exceptionnelle. » Sophie Durocher, dans une chronique très intéressante, dit « Comment j'ai appris à aimer la reine ?» Elle dit, on sait qu'elle est quand même assez souverainiste, n'est-ce pas ?« On peut conspuer la monarchie, critiquer l'institution, la trouver archaïque et même souhaiter ardemment sa disparition, mais éprouver quand même de la sympathie pour la souveraine Élisabeth II. » Et elle, c'est à travers le cinéma et la télé qu'elle a appris à apprécier la complexité de ce personnage. La presse consacre un très grand dossier à cette nouvelle, la fin d'une ère. J'insiste sur une chose, c'est la photo. En première page de la Presse Plus, la reine tire sa révérence et on voit Élisabeth II de dos, avec sa couronne, avec tout l'attirail qui nous fait bien comprendre qu'elle était reine, qu'elle était une souveraine. Cette magnifique photo est extraite d'archives de l'agence France Presse. L'auteur est Ronnie Hartman. Et ça dit tout, en fait, sur ce qu'on a vu et ce qu'elle a vécu et ce qui est arrivé récemment. Je vais revenir sur le dossier de la presse, principalement en vous parlant de l'étoffe sur laquelle le pays brode son histoire. C'est une chronique d'Yves Boisvert qui, comme toujours, est très éclairante sur cette relation que les Britanniques ont avec la monarchie et qui prouve d'une certaine façon que les relations entre la monarchie et le peuple en Grande-Bretagne ne sont peut-être pas aussi fragiles qu'on le croit avec l'arrivée de Charles. D'autres titres dans la presse plus, on parle du deuil d'une époque révolue. C'est l'éditorial de Stéphanie Grandmont qui dit que si la reine avait été, aurait été plongée dans un branle de combat constitutionnel, si elle avait été morte un an plus tôt, on se rappellera qu'il y avait un vide législatif qu'heureusement la province a comblé parce que ça aurait pu nous amener des problèmes. Nous rappelons ici que nous sommes en fait le Canada.
Sujet.
Sujet et sujet. C'est ça, à la monarchie britannique. Bonjour Monique Kerouac.
Bonjour Francine.
Ça va ce matin?
Ça va très très bien, merci.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans votre coin, dans l'Estrie, canton de l'Est?
Oui.
Monique, j'ai une question curieuse parce que l'autre jour j'étais dans votre belle région et on me disait, ben nous c'est l'Estrie. Alors, vous, avez-vous adopté un terme ou...
Écoutez, je suis avant tout ismanoise.
Bon, OK. Donc, on a, en bon québécois, je vous dirais, on a trouvé un compromis. Je vous écoute, ma chère Monique.
Alors, je vous parlerai ce matin, Francine, sur le plan culturel. D'abord, je ne peux passer sous silence le Festival littéraire des correspondances d'Eastman.
Ah, oh, en effet. Ce n'est pas du chauvinisme, on vous le pardonne.
Oui, on en est à la 20e édition. Ça a lieu donc à partir d'aujourd'hui, 9 septembre au 11 septembre. Donc, activez-vous si vous voulez venir assister à quelques conférences et événements. C'est sous la thématique « La mémoire des grandes voix » qui donne la vie à la littérature, et le tout se déroule dans un lieu qui a un rôle patrimonial, le Théâtre de la Marjolaine. C'est Fanny Mallette qui en est la porte-parole, et je soulignerai entre autres ce soir, et j'y assisterai, au spectacle de Catherine Major, Carte mère, et demain soir, eh bien, Imouzichi, sous la direction de Jean-François Rivet, va mettre les forêts d'Hélène Dorion en musique, et ce, je cite, pour mieux scander la pulsion intérieure avec les bois dont sont faits les cordes de l'ensemble, et j'y assisterai aussi. Alors, je suis certaine que ce sera magique. Alors maintenant, parlons sport et inclusion. L'ultra-marathonien et médecin de Sherbrooke, Sébastien Roulier, est à la recherche d'un nouveau défi. Les 24 et 25 septembre prochains, eh bien, il tentera d'établir un nouveau record mondial de la plus longue distance parcourue en 24 heures, et ce, dans le cadre d'une course qui se tiendra donc au Lac des Nations. Sébastien Roulier va pousser des personnes à mobilité réduite afin de promouvoir l'inclusion sociale. Cet événement a pour but de soutenir la mission des courses partagées de Sherbrooke. Alors, après ces 53 tours, soit 185,5 km du Lac des Nations en 2021, il veut cette année atteindre plus de 200 km. Alors, le tout débutera à 14 heures sur la promenade du parc Jacques-Cartier pour se conclure le lendemain à 14 heures. Sur le plan de la santé maintenant, eh bien, le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, offert par le CIUS depuis juin dernier, ben, qu'est-ce qui se passe? Il réduit ses heures d'ouverture pour permettre d'écourter les délais de suivi qui étaient trop longs. En fait, ils étaient trop populaires, il y avait trop d'appels. Alors maintenant, on réduit les heures. Au lieu d'être 7 jours sur 7 de 8h à 20h, eh bien, depuis le 2 septembre, on peut téléphoner du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et les samedis et dimanches de 8h30 à 14h. Et on souhaite pouvoir répondre dans les 20h avant la fin, donc, de la journée aux gens qui auront téléphoné.
Donc, moins d'appels, Monique, excusez,
Bien, en fait, on raccourcit les heures, donc un petit peu moins d'appels pour mieux gérer, en fait, le débit, je crois. Sur le plan de l'éducation, ben, la pénurie de main-d'œuvre a des répercussions importantes sur les centres de formation générale aux adultes qui doivent user de stratégies pour garder les jeunes sur les bancs d'école. Le défi est grand, surtout en région où le bassin de population se fait plus petit. On note entre autres que sur le territoire des Hauts-Cantons, il y a une baisse d'inscription de près de 50 % des élèves en formation générale qui terminent leur secondaire. Et ça, ça a été observé depuis le printemps dernier. On a même dû repousser de quelques jours la rentrée dans certaines régions. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles. Il semblerait que les services de francisation amènent un roulement important dans les centres de formation des adultes. S'il était difficile d'ouvrir un groupe l'an dernier sur le territoire des sommets, ben, il y en a 5 cette année. Donc, le constat est clair. Il faut diversifier les façons de faire pour recruter de nouveaux élèves. Si les communautés immigrantes sont contraintes de se franciser, les décrocheurs, eux, sont naturellement plus intéressés par les offres d'emploi actuelles que par les bancs d'école. Pour terminer, sur le plan patrimonial, bien, il y a un nouveau projet de conversion de 2 anciens bâtiments religieux en bordure de la rue Queen à Lennoxville, dont l'ancien monastère des Franciscains, qui semble maintenant en voie de réalisation. La demande de changement de zonage pour pouvoir y aménager plusieurs dizaines de logements vient d'atterrir au conseil municipal de la séance de mardi. Donc, une bonne nouvelle là aussi.
Bien, voilà. Merci beaucoup, Monique. On avait un menu chargé ce matin.
Oui.
Bien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Yves Boisvert dans la presse ce matin, l'étoffe sur laquelle le pays brode son histoire. Alors, il essayait de comprendre pourquoi c'est si important, cette monarchie. Il dit « une reine, un prince de sang, des châteaux, des privilèges, des dorures, alors tout un pays révère cela. Puis comment tout ça peut-il tenir si longtemps dans une démocratie moderne? » Et lui, il dit qu'il a compris, en fait, il a eu la réponse un jour d'avril 2011, donc ça fait un certain temps. C'était au moment du mariage du prince William et de Kate Middleton. Il avait, il s'était entretenu avec Martin Thomas, qui est un ex-criminaliste libéral-démocrate, qui a dit que, en fait, c'est que quand on arrive en Angleterre, on se met à un moment donné à vous parler d'une reine, et même si c'était un roi quand moi je suis arrivé, quand j'en ai pris conscience, et vous grandissez, et sa fille se marie, et on les suit en fait dans leur vie au quotidien. Alors c'est comme un soap opéra, un conte de fées, et il y a d'ailleurs beaucoup de tabloïdes là-bas, puis les gens en sont friands. Alors on suit ça un peu comme une histoire à la Netflix. Et ça va continuer. Donc, ce qu'il nous dit, Yves Boisvert, c'est que les Anglais ne sont pas des décapiteurs de rois, après tout. En fait, ils l'ont fait une fois, en 1649. Et tiens, il dit, ça me revient, il s'appelait Charles. Alors, au retour, Serge Hamelin.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget.
Sachet, we my way through the pipe. The day has just begun, red lights are dim, but still in play. I want to get lost in the city. Shields at her hand, take these, they should brighten your day. Sound and color hiding, I can feel my heart swell as my body calibrates. Click-clack, cameras capturing moments. Suddenly technology and phone screens seem mundane. Did someone call my name? I think I hear it when the wind blows. See those church bells ring, all the colors of the rainbow. Ooh, I found the meaning of life. I just wish I had the will to write it down. My feet tangle up the canal side. It's buildings up and flow along with the beat in my head.
my mind gaining steam like a freight train. So I level off with Les McCann in Marlboro Red. Time is an illusion. I have lived a life inside just one strike of the match. Before the ember has hit the filter, I have grew the sticks and now I'm sailing my way back. Tell me about it. Did someone call my name? I think I hear it when the wind blows. See those church bells ring, all the colors of the rainbow. I found the meaning of life. I just wish I had the room to write it down. Fractal kaleidoscope projection, Scylla sliding through my mind. Epiphany, a man free of possession is more likely to fly high. There's nothing at all but this moment. The past is only fiction, predictions of foolish guess. This life never still always flowing. You hold everything dear and then pass it on to the next. My life and love are one. I just swim along in infinite melodic bliss. Don't let yourself take yourself seriously. Travel light and true and you will surely never miss. Tell me about it. Did someone call my name? Think I hear it when the wind blows. See those church bells ring, all the colors of the rainbow. I found the meaning of life. I just wish I had the will to write it down.
Une demande spéciale de mon amie Céline, c'était King Cardiac qui chantait Amsterdam.
Très entraînant.
En effet.
Bonjour Serge Hamelin.
Oui, bonjour.
Comment ça va, Madame Francine? Comment ça va ce matin?
Ça va bien. Quand j'y pense pas, moi ça va très très bien.
Bon, alors
même, c'est que j'y pense. Bon, ok.
On va essayer de vous le faire oublier pour les prochaines minutes. Là, vous avez délaissé, je vous dirais, vos chroniques sur l'été et les produits d'été. Et maintenant, on arrive avec, est-ce qu'on a une nouvelle thématique animale?
Oui, chronique automne.
Chronique automne, animale.
Oui, c'est
la
ça.
La nourriture
oui.
pour chats. On commence avec ça.
Oui, oui, les chats. Alors, je pense que plusieurs de nos auditeurs et auditrices ont des chats à la maison. Alors, ils vont être intéressés de savoir, d'après la revue Protégez-vous, de savoir quelle est la meilleure nourriture pour leurs chats.
En avez-vous des chats, vous?
J'en ai déjà eu un, maintenant c'est un chien. Je mène une vie de chien maintenant.
OK, est-ce que vous allez nous parler des chiens éventuellement?
Peut-être, s'ils ont écrit un article sur les chiens, ça va me faire plaisir. Ça va?
Oui.
Alors, c'est un article écrit par Mathilde Roy, journaliste, et Capucine Cloutier, chargée de projet, toujours dans la revue Protégez-vous. Et les experts ont évalué le profil nutritionnel de 157 sacs seulement.
Juste ça de
croquettes pour chats. Et puis, ils se sont adjoints trois experts pour accomplir cette tâche. Normand Viau, Serge Boutet, agronome expert en nutrition animale, et Anna Kate Chauveler, professeure associée au département des biosciences animales de l'Université de Guelph. Alors, c'est du sérieux, là, hein, quand même. Alors, moi, j'ai appris ça en feuilletant cet article-là. J'ai appris qu'il y avait 17 ingrédients qu'il devait y avoir dans la nourriture pour chat, et ce qui n'est pas le cas. Hein, mais le chat doit se nourrir avec 17 sortes d'ingrédients, qui est du calcium, du phosphore, potassium, sodium, vitamine A, D, acide gras, oméga 3, oméga 6, cendre, carnitine, en plus de protéines, des gras, des fibres, de l'humidité, du magnésium et de la taurine.
Serge, est-ce qu'il y a un guide alimentaire canadien pour les chats?
Eh bien oui, voilà.
On dirait?
Ben, on dirait, sauf qu'ils ne sont pas obligés de le mettre sur leur... Mais par contre, on a tendance à le mettre parce qu'il va de soi. Le gouvernement fédéral recommande aux fabricants de suivre les standards officiels. Officials, yeah. The American Feed Control, c'est le AAFCO. C'est un groupe nord-américain de scientifiques reconnus par l'industrie de la nourriture et pour les animaux ensuite. Alors, ils demandent de l'écrire, mais ils l'écrivent plus ou moins.
Mais sérieusement, il n'y a pas de restrictions, d'obligations qui font
Il n'y a pas d'obligations encore. Mais ils mettent des choses, mais ils en mettent 13 sur 17 ou ils en mettent 7 sur 17 ou quelque chose comme ça.
Ce qui fait leur affaire.
Oui, c'est ça. Alors donc, dans la nourriture, la chose la plus importante, c'est la taurine et le magnésium. Une des choses les plus importantes, à part de la protéine, qui est à considérer. La taurine, c'est un acide aminé essentiel que le chat est incapable de produire lui-même. Il doit impérativement le rechercher dans son alimentation, sans quoi il peut développer des problèmes de cœur et de vue. Voilà. Ensuite, il y a le magnésium. La concentration en magnésium, c'est un minéral nécessaire au chat, mais qui en excès et associé à un pH urinaire peu acide peut entraîner des problèmes urinaires. Donc, il doit y avoir du magnésium, il doit y avoir de la taurine et les autres que je vous ai nommés, le potassium, le phosphore, etc., et les protéines. On a essayé de faire de la nourriture végétarienne, mais ce que j'ai appris, en fait, dans cet article toujours, c'est que le chat est un carnivore strict. Hein? Il y a pas de... On joue pas avec ça. Alors, il doit manger, genre, de la viande.
Il n'y a pas de conversion possible.
C'est ça. On essaye de remplacer ça par des insectes ou des choses comme ça maintenant, pour satisfaire. Mais ça avec des levures aussi, mais ça fait pas le travail vraiment qu'on dit. Alors, maintenant...
Je m'excuse, Serge, puisque oui. Vous parlez de végétarisme et de chats, est-ce que il y a des produits bio pour les chats?
J'en ai pas.
Il n'en parle pas?
Ben, c'est... Le bio, non, je n'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a. Mais là, je vais vous parler, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Je vais vous parler des meilleurs sur le
marché. Oui, allez-y,
hein,
allez-y.
Ça
oui.
Va? Par exemple, pour les chats d'intérieur, il y a des différences entre les chats intérieurs et extérieurs. Alors là, allez savoir pourquoi. Alors, le meilleur produit pour les chats d'intérieur du test, là, c'est parce qu'il respecte l'ensemble des critères d'évaluation et procure aux félins des protéines et des gras de très bonne qualité. Et son étiquetage est transparent en dévoilant 14 des 17 éléments nutritifs recherchés. Le seul point faible de ces croquettes, c'est le prix.
Aha.
À chaque portion que vous donnez à votre chat, ça vous coûte 1,11$. Et le nom de ce produit, c'est le meilleur choix, Nutrience. N-U-T-R-I-E-N-C-E. OK? Nutrience. Puis pour l'entreprise québécoise, le meilleur choix et le meilleur marché, c'est l'entreprise québécoise... Oven Baked Tradition Nature's Code. Voilà. Ça revient à 59 cents de la portion. Il s'agit du moins cher des meilleurs choix dans la catégorie des produits pour chat d'intérieur. Et ces croquettes offrent des protéines et des gras de qualité, mais le fabricant n'affiche pas sur l'emballage la quantité de taurine, qui est un nutriment essentiel pour la santé du chat. Alors, quand on regarde des produits, là, le produit s'il y a sur le sac, regardez s'il y a la taurine et le magnésium. Et aussi, c'est parce que des fois, on met le magnésium, on ne sait pas en quelle quantité, s'il n'y en a pas assez ou trop, ça dépend. Alors, voilà. Ensuite, ça, maintenant, il y a le choix du président, un bon choix, qui revient à 32 sous la portion, le choix du président, extra-viande, chat d'intérieur. Maintenant, pour les chats extérieurs, eh ben, il y a toujours, en première position cette semaine, il y a toujours le Nutrience. Oui, qui revient à 1,33$ la portion. Alors, c'est plus cher les chats à l'extérieur. Et, surprise, Kirkland Costco, meilleur choix, qui revient à 12 sous la portion.
Oh là là, c'est
Oui,
tout un écart, ça.
Eh oui, alors je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vont chez Costco. Mais de loin, l'un des produits les plus économiques parmi l'ensemble de ceux qui ont été évalués. Puis il faut toutefois être un membre de Costco, c'est sûr, pour se le procurer et avoir l'espace chez vous pour ranger un sac de 20 livres ou de 9 kilos. Par ailleurs, l'emballage ne dévoile que 9 éléments nutritifs importants sur les 17 qui sont recherchés. Mais on estime que la nourriture est assez bonne pour le chat d'extérieur. Ensuite de ça, il y a, chez Costco, puis il y a le choix du président également, qui revient à 30 cents la portion. Et puis, il y en a un qui est à éviter. On a entendu parler peut-être, c'est le Mio X. Miao Mix. Alors ça, c'est de Tasty Layers. C'est du maïs entier moulu, farine de sous-produits de poulet, farine de gluten de maïs, tourteau de soja et graisse animale. Puis en plus des ingrédients de piètre qualité et des gras non identifiés qu'elles contiennent, ces croquettes se caractérisent par un étiquetage opaque en ce qui a trait aux valeurs nutritionnelles. Alors pire, ce produit est plus cher que plusieurs des bons choix, qui revient à 46 cents la portion.
Alors donc, ben, je vous remercie, Serge, c'est ça. Puis vraiment des conseils éclairés,
ouais.
Vraiment, et qui vont nous aider aussi peut-être dans notre budget, hein, parce qu'il y a des écarts importants.
Ouais. Alors, c'est chat qui est chat.
C'est chat qui est chat.
La porte qui s'ouvre, j'attrape mon air. Ferme ma gueule, mais j'y vois clair. Ses yeux tricheurs remplis de paillettes, les miennes dans le vide cherchent des miettes. Dis-moi la vérité, ça vaut combien? Si ça me coûte tout ce que j'ai, je suis pas sûr que j'y tiens. Mais je sais trop qu'elle sait pas mentir. C'est pas mentir. Mon âme sœur s'est envolée en l'air. Je sais pas comment faire pour réparer mon cœur. Tout seul à star avec la peur de plus retrouver de bonheur ailleurs. S'accroche et sans bon sens. Pas grand chose à l'épreuve du temps. Un beau matin, c'est clair, le fun est fini. Laisse faire les becs, s'y jouent. Je veux pas qu'on reste amis. J'ai trouvé un appart plus loin dans l'est. Rien de grandiose, tout se passe dans la même pièce. Moins beau qu'ici, mais tant qu'à vivre à demi. Je préfère être entier, même si c'est plus petit. Mon âme sœur s'est envolée en l'air. Je sais pas comment faire pour réparer mon cœur. La star avec la peur de plus retrouver de bonheur ailleurs. Je vais réparer mon cœur. Tout seul la star avec la peur de plus retrouver de bonheur ailleurs.
On écoutait J.P. Dalpé qui chantait du bonheur ailleurs sur les ondes de Canal M, par contre.
Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Ah, très bien, vous-même.
Oui, alors là, vous allez nous ramener 50 ans en arrière. Alors aujourd'hui, hein, 70 ans, 50 ans, c'est bien, hein, parce que là, la mémoire doit s'activer. Puis ça nous rappelle qu'il y a eu bien des choses intéressantes avant nous. En fait, vous parlez de la série du siècle au hockey. Vous allez parler aussi du championnat d'échecs entre Boris Spassky et Bobby Fischer, dont on a moins parlé récemment.
Et, 22, oui.
Oui, et votre chronique s'intitule « Capitalisme contre communisme ». Allez-y.
Mais c'est ça, c'était deux affrontements, capitalisme-communisme. Mais vous savez, Francine, c'est rare que je me fie sur les éphémérides pour trouver mes sujets de chronique. Je préfère, en général, laisser l'inspiration me guider plutôt que le calendrier. Mais je fais une exception cette semaine, la raison est assez simple. Il se passait tellement de choses dans le monde au début du mois de septembre 1972, il y a donc exactement un demi-siècle. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, un incendie criminel a fait 37 morts dans un bar country nommé le Wagon Wheel rue Union à Montréal. Ça demeure encore aujourd'hui une des pires tragédies survenues sur le territoire montréalais. 4 jours plus tard, c'est à Munich, en Allemagne de l'Ouest, que survient une tragédie de grande ampleur. Un commando de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir est parvenu à s'introduire dans le village des athlètes participants aux Jeux olympiques de Munich. 11 athlètes et officiels israéliens ont été enlevés et assassinés. Il y a aussi eu le vol spectaculaire d'une 50aine d'œuvres d'art dérobées au Musée des beaux-arts de Montréal dans la nuit du 3 au 4.
Qu'on n'a jamais retrouvé, hein, je crois, Marcel.
On a retrouvé 2 des œuvres sur la 50aine qui ont été volées et jamais on a épinglé les coupables. Donc, tout ça se passait sur fond de campagne électorale fédérale. Les médias et le grand public ne savaient plus où donner de la tête. Et comme si ce n'était pas assez, on a assisté au début du mois de septembre 1972 à la conclusion, puis au début de ces 2 grandes confrontations communistes-capitalistes, une sur glace, l'autre sur l'échiquier. Et ça a été l'occasion, je pense, pour beaucoup de gens en Occident de revoir les idées qu'on leur avait inculquées à propos de l'URSS et des Soviétiques. Chez nous, et en Amérique du Nord dans son ensemble, les finales du championnat du monde d'échecs, ça ne défrait pas vraiment les manchettes, et les joueurs qui y participent ne jouissent pas d'une grande notoriété. Il y a une exception à cette règle-là, c'est la série de matchs entre l'Américain Bobby Fischer et le Soviétique Boris Spassky, disputée à l'été 1972. Non seulement la discipline n'avait eu que des champions soviétiques depuis la Seconde Guerre mondiale, mais toutes les séries finales depuis la fin du conflit avaient opposé 2 représentants de l'URSS. Et là, surprise, le tenant du titre, Boris Spassky, devait se frotter à un Américain. 1972, c'était une période de détente relative entre les 2 superpuissances. On avait signé un traité pour limiter la prolifération des missiles à longue portée au mois de mai, mais il n'en demeurait pas moins que chaque affrontement américano-soviétique, ou même les affrontements canado-soviétiques quand il y en avait, ça avait une saveur particulière. Et les médias nord-américains ont offert une couverture sans précédent de la finale du championnat d'échecs, alors que Bobby Fischer, le génie de 29 ans, avait la chance de donner une victoire à l'Occident capitaliste et de battre les Russes sur leur terrain, en pleine guerre du Vietnam, où les victoires américaines étaient plutôt rares, et en pleine guerre froide, la pression était énorme sur les 2 joueurs. Les championnats d'échecs, c'est toujours très long. Ça a duré 6 semaines en tout et partout, et ça s'est terminé par le sacre de Fischer le 1er septembre. Et un peu plus de 24 heures plus tard, on déposait la rondelle au centre de la glace du Forum de Montréal pour lancer la série du siècle Canada-URSS au hockey. Chez nous, tout le monde a eu les yeux rivés sur leur écran de télé pour suivre ce face-à-face-là. Et il y a de nombreuses commémorations de la série du siècle un peu partout. Et la raison pour laquelle ça a été tellement marquant, c'est qu'on n'avait jamais vu les meilleurs joueurs des 2 meilleurs pays du monde sur la même glace en même temps. Ça avait été très dur pour la fierté nationale canadienne de se faire supplanter par l'URSS en tant que première puissance mondiale en hockey dans les années 1950. On s'était fait dépasser par des communistes de surcroît. Mais là, finalement, on envoyait nos meilleurs joueurs, les étoiles de la Ligue nationale de hockey, qui n'étaient pas autorisées à l'époque à participer aux grands rendez-vous internationaux comme les Jeux olympiques. On allait donc, enfin, pouvoir régler le cas des Russes, comme on les appelait en général. Et cette série-là, ben, c'est notre moment de guerre froide à nous. Une série Canada-Suède, la Suède qui était également un pays capitaliste pour la suprématie dans le monde du hockey, ça n'aurait pas eu le même impact. Et la série du siècle, tout comme le championnat du monde d'échecs, s'est terminée à l'avantage des Nord-Américains. Mais je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre ces 2 événements-là. Dans l'optique de la guerre froide, on nous avait conditionné, nous qui vivions dans le bloc capitaliste, à voir les communistes comme les méchants. Mm-hmm. C'était probablement la même chose à l'inverse, remarquez bien, de l'autre côté du rideau de fer, mais on va s'en tenir à notre cas, à nous. il n'y avait, dans notre perspective, à peu près rien de pire que d'être communiste. Donc, un affrontement capitaliste-communiste, c'était le bien contre le mal. Mais on s'est vite rendu compte qu'autant Bobby Fischer que les joueurs de hockey canadiens avaient tendance à se comporter comme des malotrus, et eux qui nous représentaient, qui étaient en théorie les bons gars, n'est-ce pas, comme à la lutte où il y a les bons et les méchants, faisaient bien paraître ces gens-là venus de loin qui étaient théoriquement l'incarnation du mal. Bobby Fischer s'est présenté en retard à Reykjavik, en Islande, où avait lieu son match contre Boris Paskey. Il a menacé de ne pas jouer si on ne majorait pas la bourse remise aux compétiteurs. Et tout au long des procédures, il y a eu des caprices, il y a eu des exigences. Il voulait jouer sur un échiquier spécial fabriqué dans une boutique particulière de Londres. Il a perdu le deuxième match par défaut parce qu'il exigeait qu'on sorte les caméras de l'amphithéâtre où avaient lieu les rencontres, ce qui lui a été refusé. Il y avait quand même beaucoup d'argent qui venait de l'enregistrement et de la télédiffusion des parties. Ensuite de ça, il s'est plaint du bruit, il s'est plaint de sa chaise. Bref, tout cela était, de ce qu'on en comprend, à l'intersection du comportement erratique qu'il a caractérisé tout au long de sa vie et de la guerre psychologique qu'il a livrée à son adversaire.
Caprice de star, en fait, Marcel.
Oui, absolument. Absolument. C'était vraiment, il cherchait toujours le petit problème, la petite bébite noire pour essayer, encore une fois, probablement de déranger son adversaire qui avait un comportement complètement différent du sien. Et dans les journaux américains, autant on a porté Fischer au nu, on décrivait les deux hommes ainsi. On disait que Spassky était bel homme, qu'il était élégant, courtois, admiré de tous et toutes, alors que Fischer était arrogant, brusque, malpoli, avait un horrible tempérament. Et dans le journal La Presse, chez nous, le columniste Réginald Spinayer a dit « Fischer semble avoir prouvé que le génie peut s'accompagner d'une criante cupidité et se passer d'une élégance pourtant gratuite dans le comportement social. De la rencontre, les échecs sortent à la fois mieux connus par le grand public et vaguement souillés. » Les amateurs de hockey ont eu un peu le même sentiment en regardant les matchs de la série du siècle. Alors qu'on appréciait l'élégant patinage et le jeu d'équipe des Soviétiques, le comportement des joueurs canadiens n'a pas été particulièrement édifiant. Les coups de coude, les coups de bâton, les représentants de l'Unifolie voulaient continuellement se battre et ont abusé du geste du coupe-gorge à l'endroit de leurs adversaires. Après la première partie, qui s'était soldée par une humiliante défaite canadienne, l'équipe perdante a quitté la patinoire en coup de vent alors que les Russes attendaient la poignée de main d'après-match. On a dit par la suite qu'on ne s'était pas sauvé, qu'on avait simplement oublié que c'était la coutume en hockey international. Mais ça a très mal paru. La foule du Forum de Montréal, d'ailleurs, n'a pas du tout apprécié le comportement de son équipe. Ensuite de ça, il y a eu Bobby Clark, l'attaquant canadien qui a fracturé la cheville du meilleur joueur de l'URSS d'un vicieux coup de bâton lors du sixième match, alors que Jean-Paul Parisé a failli décapiter l'arbitre lors de la huitième rencontre. Ça fait dire notamment au journaliste Michel Blanchard, il était du nombre de ceux qui ont été conquis par les hockeyeurs communistes, il a dit « Ils sont beaux, nobles et je les aime ». Comment peut-on rester indifférent devant ce super spectacle qu'il nous offre, cet esprit de combativité sans pareil, cette précision et ce magnétisme? Les dieux du stade, ce sont eux. Et en bout de ligne, Canadiens et Américains se sont réjouis des victoires de leur camp, mais je pense que, peut-être sans même que les gens s'en rendent compte, la perspective de l'ennemi, entre guillemets, a changé. C'était plus si facile après ça de distinguer les gentils des méchants, et je pense, Francine, que notre monde est devenu un peu moins manichéen au cours de cet été 1972.
Finalement, ça a été une petite leçon. Moi, j'aime pas tellement ce terme-là, mais il me semble, pour avoir, je me rappelle très bien des événements que vous avez évoqués, puis il me semble qu'après ça, on avait peut-être un peu plus d'humilité.
On ne voyait plus, je pense, les choses tout à fait de la même manière. On demeurait fiers, hein, notre équipe a gagné,
oui.
Mais il y avait quand même un bémol par rapport à ça.
Oui, c'est ça. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Marcel.
À la semaine prochaine.
Scolarisation des personnes handicapées. Alors, comme on le sait, évidemment, c'était la rentrée scolaire au cours des dernières semaines, parce que ça s'étale toujours sur quelques semaines. Et l'Office québécois des personnes handicapées a publié un communiqué concernant la scolarisation des personnes handicapées. Dans ce communiqué, on apprend qu'il y a 61 % des personnes qui ont des incapacités, là, âgées entre 15 et 24 ans, qui fréquentent régulièrement un établissement d'enseignement. Pour pouvoir fréquenter l'école ou suivre leurs cours, c'est sûr qu'ils ont besoin d'adaptation, d'appareils, de services de soutien, mais ils sont pour la plupart intégrés dans des classes régulières. Le dernier volume de la collection statistique « Les personnes avec incapacité au Québec portant sur la scolarisation », il est disponible sur le site de l'Office, qui est ophq.gouv.qc.ca. 43 % de la population entre 15 et 64 ans qui fréquente un établissement scolaire dit qu'elle a besoin effectivement d'appareils et de soutien. Malgré ce portrait qui pourrait être amélioré, il reste que dans certains cas, la fréquentation n'est pas facile et certains doivent mettre fin à leurs études ou à une formation parce que c'est trop difficile pour eux. On parle d'environ 1 sur 3 et il y en a 42 % qui sont victimes d'intimidation, soit parce qu'elles sont tenues à l'écart ou encore on ne va pas leur faciliter, je dirais ça comme ça, leur cheminement scolaire. Au retour, chronique techno. Alors, on va parler justement des compétences numériques. On va rester dans l'esprit du retour à l'école. Et je m'entretiens avec Carole Froment. Carole Froment, je vous rappelle, elle est coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget.
Oh, j'étais dans la lune. Heureusement que Mathieu est là. Oh, alors, j'enchaîne avec les quatre compétences numériques indispensables pour l'avenir du travail. C'est le magazine Forbes France qui rapportait cela récemment sur son site web. Il faisait état d'un récent rapport de l'Institute for the Future qui a réalisé son étude en partenariat avec des compagnies, entre autres comme Dell, qui prévoit que 85 % des emplois qui vont être disponibles en 2030 n'ont pas encore été inventés. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Malgré cela, on sait que ces nouveaux emplois vont exiger des maîtrises importantes des médias sociaux, de l'intelligence artificielle et de tous les secteurs de l'automatisation, sans compter évidemment l'intelligence artificielle dans l'application de produits. Donc, le travail des êtres humains là, va continuer d'évoluer. On n'a rien vu encore. On en parle beaucoup depuis la pandémie. Parce que la pandémie, évidemment, nous a amenés à revoir nos façons de faire, mais ces compétences-là, on va continuer à les développer et de nouvelles peut-être, ou encore du développement de compétences actuelles, mais de façon différente, seront nécessaires pour pouvoir prospérer, comme on dit, dans cet article, dans le monde du travail. La première compétence, on parle de l'habileté numérique. L'habileté numérique, c'est la compétence pour apprendre, travailler, naviguer dans notre vie quotidienne, dans un monde qui est de plus en plus numérique. Qu'est-ce que ça implique? Ce n'est pas nécessairement une compétence qu'on va acquérir à l'université ou encore dans d'autres formations professionnelles. Ça exige une certaine curiosité, c'est-à-dire de se tenir au courant des nouvelles technologies émergentes, de comprendre ce qui est disponible et de voir aussi comment on peut les utiliser. Notre capacité aussi à utiliser des appareils, des logiciels, des applications numériques, pas seulement au travail, mais aussi dans notre vie quotidienne. De plus en plus, en fait, c'est tellement présent, toute cette numérique dans notre vie quotidienne, qu'on est en apprentissage continu, non seulement pour notre travail, mais aussi pour pouvoir évoluer dans notre, je dirais, dans notre propre vie quotidienne. Ne serait-ce que toutes les applications pour prendre des rendez-vous pour un médecin, pour payer ses comptes, etc., etc. Deuxièmement, deuxième compétence, la connaissance des données. Alors, on le dit, on le répète ad nauseam, que nous sommes en plein milieu d'une quatrième révolution industrielle. C'est un mouvement qui se définit par de nombreuses vagues de nouvelles technologies qui combinent les mondes numériques et physiques. L'exemple du métaverse ou métavers en est, ça peut pas être plus clair comme tel. Alors, ça nous prend des appareils intelligents, des montres au thermostat qui sont connectées à l'Internet pour pouvoir évoluer dans ce nouveau monde. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Certains pourraient remettre cela en question, mais c'est comme ça qu'on voit les emplois, mais aussi le monde de l'avenir. Et quand on parle d'avenir, c'est assez proche, je vous le rappelle. On parlait de 2030 en introduction à cet article. Les nouvelles technologies, ils vont reposer sur des données. Donc, c'est très important de comprendre comment on va utiliser ces données. L'importance, c'est non seulement de les connaître, mais aussi de savoir comment les transformer pour que ça soit quelque chose de valable dans notre contexte. Présentement, on est beaucoup dans le contexte commercial quand on parle d'utilisation de données, d'appropriation de données, mais il faut aussi être capable de trouver un sens à ces chiffres qui vont nous permettre éventuellement de communiquer avec les autres, de communiquer des idées et de remettre en question des données qui sont nécessaires. Compétences techniques. Mathieu, est-ce que vous diriez que vous avez cette compétence technique, vous qui travaillez là, comme tel, là, hein, toujours avec des appareils, on vous voit peser sur un piton, faire du multitasking, comme disent les jeunes. Est-ce que vous pensez que vous avez cette compétence?
Je pense que oui.
Et comment vous faites pour l'entretenir, vous? Et
comme vous dites, je travaille constamment avec des ordinateurs, mais aussi le téléphone. En fait, je suis né pratiquement à l'âge du premier ordinateur. Donc, on a toujours eu un ordinateur chez nous. Et voilà, c'est juste d'être curieux, de s'intéresser, exactement comme l'article le dit. C'est juste d'être intéressé et comme c'est inévitable dans une vie de devoir se servir de la technologie numérique, alors...
Est-ce que vous êtes genre à acheter les derniers appareils
non.
ou à vous mettre en contact avec les derniers appareils qui offrent toujours de plus en plus de possibilités?
Non, je garde j'essaie de garder mes appareils le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'ils s'effritent entre mes doigts.
Vous avez bien défini ce qui est nécessaire à la compétence technique, je dirais, Mathieu, mais ça va aller au-delà de ça parce que ça, cette compétence-là, pour qu'elle soit vraiment acquise, bien, je pense que ça va passer vraiment par l'école parce que ce qu'on dit dans cet article de Forbes France, c'est qu'il faut maîtriser le codage, il faut maîtriser aussi le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Bon, il faut comprendre là, qu'on ne sera pas tous des experts en informatique à cet égard-là, mais il va falloir être capable de l'utiliser un peu comme on utilise à tous les jours des logiciels. La quatrième compétence, c'est la sensibilisation aux menaces numériques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va nous amener à nous instruire sur ce que sont les menaces numériques, comment on peut déceler des impacts qui pourraient affecter notre vie personnelle et professionnelle. C'est les cybercriminels, on sait qu'ils deviennent de plus en plus malins et malfaisants. On est toujours en réaction à ça. Puis des fois, peut-être qu'on pourrait, en étant, je dirais, peut-être mieux instruit, je m'inclus là-dedans, minimiser l'impact de ces utilisations malignes ou malfaisantes. l'utilisation d'Internet, de dispositifs numériques, ça exige qu'on assure notre sécurité et on ne peut pas toujours se fier à d'autres pour le faire. La dépendance numérique, la confidentialité, la protection par mot de passe, c'est toutes des choses qui nous appartiennent. C'est sûr que la cyberintimidation aussi en fait partie, parce que ça peut mener à des impacts importants au niveau de la sécurité numérique. Il y a les violations de données sur lesquelles il faut vraiment être très, très, très vigilant. Et on rapporte depuis quelques jours des cas qui sont survenus au Collège Montmorency et qui sont peut-être, attribuables à certaines négligences, mais aussi au fait qu'on aurait pu, quand on s'est senti visé, réagir plus fortement pour protéger l'impact de l'utilisation de ces renseignements personnels. Alors, voilà quatre compétences numériques indispensables pour l'avenir du travail.
Déjà minuit dans la forêt du monde, qu'est-ce qu'on a trahi pour que l'orage gronde? Hier et maintenant, un atome et du temps, comme un arbre je suis, comme désir dans la nuit, et garde-moi, garde-moi un peu de poésie. Des courants, les mots qu'on ne dit jamais, hier et longtemps éclairent l'horizon, le chemin où j'écris, le jardin de nos vies. Garde-moi, garde-moi, garde-moi un peu de poésie. Garde-moi, garde-moi, garde-moi un peu de poésie. Bruit au fond du cœur, un cœur et ses bonheurs, tout ce qu'on s'est promis. Est-il déjà minuit dans la forêt du monde? Qu'est-ce qu'on a trahi? Entends-tu l'orage qui gronde? Garde-moi, garde-moi, garde-moi un peu de poésie. Garde-moi, garde-moi, garde-moi un peu de poésie.
On vient d'entendre Richard Séguin et une toute nouvelle chanson qui paraît sur l'album qui sort aujourd'hui. L'album s'appelle « Des liens, des lieux ». La chanson s'appelait « Un peu de poésie ».
Que c'est beau.
Mm-hmm.
Oh, merveilleux. C'était pour vous, Carole Froment.
Merci beaucoup.
Alors, Carole Froment, qui est du CIVA, du Centre d'intégration à la vie active, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était à la fin de votre saison d'été, on était à la mi-août. On avait essayé de vous tirer les vers du nez pour la saison d'automne, mais vous prépariez le lancement. Ça n'avait pas très bien marché, mon affaire. Alors là, maintenant, vous êtes en mesure de nous parler des activités que vous prévoyez à l'automne. Et il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, mais je vous laisse faire ça selon votre plan de match. C'est l'activité « Active-toi ».
OK. Ben oui, on est en pleine semaine de rentrée, donc nos activités ont repris, notre programmation a repris ce mardi. Donc on reprend toutes nos activités sportives et culturelles, donc on en a près d'une quinzaine à la programmation pour toute cette saison d'automne, mais également aussi qui se poursuivront à l'hiver. Donc on en a pour les jeunes, pour les adultes. Notre programmation commence dès 7 ans avec notamment du basketball mini, de la boccia junior ou encore des cours d'art pour enfants. Puis ça se poursuit avec du basketball en fauteuil roulant de niveau plus supérieur, que ce soit du récréatif, du compétitif, puis également du boccia, du yoga pour adultes. On a aussi un atelier d'intégration sociale, c'est du cirque social. Donc ça s'adresse à une clientèle, on va dire, jeune adulte, qui peuvent être, par exemple, en transition scolaire, puis qui cherchent une activité vraiment pour socialiser, avoir des ateliers d'expression via le cirque. Puis en général, c'est vraiment très apprécié.
Est-ce que c'est une nouvelle activité, ça?
Non, c'est pas nouveau. On l'a débuté, je vous dirais, il y a peut-être un an et demi. Donc on a un groupe de jeunes qui est avec nous, mais on cherche quand même à recruter, à trouver de nouveaux jeunes qui voudraient s'embarquer dans le projet, parce que c'est quand même très chouette. Il y a une réalisation sur l'année. Puis on participe même à un rassemblement national, donc à l'échelle canadienne, au printemps, chaque année, en collaboration d'ailleurs avec l'organisme Circorpiste. Et donc c'est quand même un très beau cours, un très bel atelier qui en général génère aussi de très belles rencontres.
Allez-y, continuez.
Oui, puis je voulais aussi dire qu'on offre des activités à Montréal et sur la rive sud. Donc à Montréal, dans l'arrondissement sud-ouest et dans l'arrondissement Villeray. Et puis on a également aussi du boccia et du power chair soccer, donc du soccer en fauteuil motorisé sur la rive sud.
Est-ce que vous allez me parler d'Active-toi? Vos journées portes ouvertes?
Oui, on est heureux de pouvoir reprendre des journées portes ouvertes cette année. Donc, on va pouvoir accueillir les personnes qui souhaitent venir nous rencontrer puis découvrir un peu plus nos activités jeunesse le samedi 17 septembre de 9h30 à midi. Donc, ce sera à l'école Joseph Charbonneau dans Villeray. C'est l'école spécialisée. Puis, on pourra accueillir les personnes qui souhaitent venir pour découvrir justement l'ensemble de nos activités jeunesse, donc du basketball mini, de la boccia, du power chair soccer, mais également aussi les activités artistiques, cours d'art enfants qu'on propose également.
Il n'y a aucune inscription qui est requise, hein? C'est ce que je comprends pour Active-toi?
Non, vous venez, puis on sera là.
C'est ça, c'est très bien. Donc, c'est très spontané, puis en même temps, ça nous permet d'être en contact avec vous et votre organisme. Je rappelle que pour toutes ces activités, pour plus d'informations, on peut aller sur votre site web, qui est civa.qc.ca.
Exactement.
Alors, merci beaucoup, Carole Froment, et on se retrouve à peu près dans un mois. On verra où vous en êtes rendu.
C'est parfait. Merci,
merci
à vous.
Au revoir.
Au revoir.
quand il fait noir dans ma caboche, les jours où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche, à vie devant, devant ma vie, et les paupières en parapluie. Y'a toujours ma copain Pierrot qui pose une main en haut de main d'eau et qui me dit dans un sourire, faut qu'on s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts, les soirs où je siffle faux, quand je me sens sûr en salle et seul, avec la gueule de traviole. Y'a toujours ma copain Pierrot qui pose une main en haut de main d'eau et qui me dit dans un sourire. Je détraque et que je tique, que je suis pas traqué, pathétique. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas, frère, ça va pas. Y a toujours ma copain Pierrot qui pose une main en haut de main d'eau et qui me dit dans ses sourires.
C'était Loïc Lantoine qui chantait la chanson Pierrot.
Ah ah! C'est le son du jet bleu qu'on entend, n'est-ce pas?
Oui.
Merci, Mathieu. Alors, je commence avec quoi surveiller ce week-end avec le son du jet bleu. Je vous recommande, non pas de chercher les jets bleus, mais si c'est possible pour vous de prendre la route et d'aller vers les Laurentides ou vers des beaux parcs, en fait, où on retrouve justement de ces magnifiques oiseaux et qui sont particulièrement en forme, je vous dirais. Le week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'observer et d'entendre ces jets bleus. Et bon, ils se pavanent, semble-t-il, pas mal dans les Laurentides de ce temps-ci. Alors, profitez-en parce que ça fait du bien de se concentrer sur ce petit oiseau. Je dis petit, mais il est assez bien pris. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais comme il annonce très, très beau, évidemment, ce week-end, l'été n'en finit pas. C'est une bonne façon d'en profiter. On peut aussi, évidemment, se concentrer sur autre chose. Alors, pour ceux qui veulent continuer à s'informer sur le règne d'Élisabeth, il y a un très beau documentaire qui va être diffusé à 22h, qui s'intitule « Downing Street, au service de Sa Majesté ». Alors, donc, ce documentaire sera diffusé sur Télé-Québec. Mais d'ores et déjà, vous pouvez aller à télequebec.tv et vous allez trouver, en fait, vous ne le manquerez pas, vous arrivez, vous voyez la reine et vous cliquez et vous êtes rendu sur le documentaire. Vous, de votre côté, Mathieu, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end?
Oh, excusez-moi, pardon.
Ah, à votre tour d'être dans l'une. Non, je suis contente pas dans l'une, de vous avoir pris un petit peu en défaut.
Je suis commandé de toutes parts. J'imagine que vous me demandez ce que j'allais faire en
la
fin de
la question qu'on pose en fin d'émission, en
je
effet.
Je vais faire un pique-nique.
Ah, ben voilà. Donc, voilà. Vous vous inscrivez dans la
dans la nature. On va en profiter
nature,
pendant que ça
le
passe.
Dans la nature,
exact. Ouais. Et pour les jets bleus, il y en a énormément aussi en Mauricie. Parce que j'ai passé quelques fins de semaine durant mes vacances on a été visités très souvent par les jets bleus. Alors, voilà. Je n'irai pas aussi loin, mais...
Votre pique-nique sera où?
Au parc Maisonneuve.
Oh, c'est beau. Les pique-niques à Montréal, on en a parlé souvent, c'est de très, très beaux endroits.
Moi, je trouve que c'est un beau parc pour faire des pique-niques. Je trouve que c'est très champêtre, ce parc.
Sur le plan culturel, on a parlé un petit peu des liens et des lieux de Richard Séguin qui sort aujourd'hui. Magnifique disque, j'ai pas eu l'occasion, évidemment, puisque ça sort aujourd'hui, d'en écouter de larges extraits, mais Mathieu nous a fait entendre une de ses chansons qu'on retrouve sur ce disque, et aussi Richard Séguin a fait une prestation à la télévision au début de la semaine, je crois. C'est un disque qui a mûri, hein, en fait, ça y a pris 3 ans. Il a commencé à réfléchir aux chansons un peu dans la, je dirais, dans la mouvance de la pandémie. Et sur ce disque-là, il y a plusieurs textes d'Hélène Dorion. Et d'ailleurs, un peu de poésie, c'est le premier qu'il a mis en musique. C'est très, très beau. On aime Richard Séguin, hein, il fait partie de nos incontournables québécois. Alors, je vous invite à l'écouter, les liens et les lieux. Il y a le spectacle des 7 doigts aussi qui semble être une petite merveille. Les 7 doigts présentent un spectacle qui s'intitule « Mon île, mon cœur ». Ça a commencé le 8 septembre. Ça va se continuer jusqu'au 25 septembre. Vous pouvez aller sur le site 7 doigts, donc 7, le chiffre, vous n'avez pas besoin de l'écrire en lettres, doigtaupluriel.com. pour toutes les dates et aussi pour vous procurer les billets. Ça a lieu dans un espace qu'on appelle maintenant le studio cabaret de l'espace Saint-Denis. Si je vous dis ça, est-ce que ça vous dit quelque chose, vous?
Non.
Non, ça vous dit rien,
l'espace
hein?
L'espace Saint-Denis,
ben,
non.
Je suis allée m'informer parce que moi, je me suis dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est la 2e salle du Théâtre Saint-Denis, la salle 2 du Théâtre Saint-Denis, qu'on a rebaptisée, d'après ce que je comprends. Alors, ce spectacle, on l'annonce en disant que c'est une histoire d'amour à la ville de Montréal, à son fleuve, et aussi, ça montre finalement les interrelations, les liens que nous avons avec cette ville et ce fleuve. C'est un cabaret immersif, il y a du cirque, de la danse, de la musique multimédia, etc., etc. Il y a aussi, dans un tout autre ordre, mais je pense qu'il faut vraiment quand même le signaler, ce documentaire dont on a beaucoup parlé cette semaine. Je vous le mentionne parce que vous savez comment je suis pro-cinéma québécois et je sais que comme ça ne passe pas dans plusieurs salles, ça ne passe qu'au Beaubien et au cinéma du Parc, on peut s'attendre à ce que ça ne dure pas des semaines et des semaines. C'est « Je vous salue, salope » de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. C'est une conscientisation, elle est dure, mais elle est nécessaire, je pense, sur la misogynie au temps du numérique. C'est à peu près ce qu'on avait à vous suggérer, mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup encore d'activités. On va se quitter là-dessus. C'était une autre émission d'Au quotidien, 5e édition. Je suis en compagnie depuis le début, que je l'ai rebaptisé, c'est parce que je ne l'ai pas vu pendant 3 semaines, alors j'ai décidé de le rebaptiser. Mais Mathieu, pourtant...
Étrangement, Marcel, je me fais souvent appeler Marcel.
Oh oui?
Oui.
Oh.
Je dois avoir une tête de Marcel, faut
Mais
croire.
Moi, vous savez, hein, les noms, comment j'ai des problèmes, mais là, je vais l'écrire la semaine prochaine, ça va être marqué Mathieu sur ma feuille, puis je vais essayer de savoir lire en temps et lieu. Mathieu Tessier, que je remercie beaucoup de m'avoir accompagné tout au long de cette émission, ainsi que nos chroniqueurs réguliers et Madame Froment. À la semaine prochaine et bon week-end!